L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous met dans les oreilles les voix du Finistère. Et ces voix sont souvent celles de l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, où il se passe toujours quelque chose. Le 21 mars dernier, l'UBO a rejoint un consortium de facs et de grandes écoles, un groupe pionnier d'une vingtaine d'établissements qui s'est fixé pour mission de construire une approche de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur français. Un engagement qui s'inscrit dans le prolongement d'actions déjà engagées par l'université autour de l'IA, de sa nécessité de l'intégrer à nos modes d'apprentissage et d'enseignement. Car oui, on le dit, on le redit, l'intelligence artificielle est là, elle est déjà partout dans nos vies et on n'a rien décidé. On n'a pas eu de vote citoyen, c'est comme ça. Les GAFAM, les grandes entreprises privées l'ont répandu partout en nous présentant l'IA comme un progrès génial, c'est peut-être le cas. Peut-être pas. Toujours est-il qu'il faut s'interroger sur ses usages. Et en rejoignant ce consortium, l'UBO a souhaité que la transformation numérique soit réfléchie et responsable. L'université a déjà engagé depuis 2 ans des groupes de réflexion, de travail, des études, des travaux de recherche autour de l'IA. Donc c'était logique de continuer dans cette voie. Audrey Bérou est ingénieure pédagogique au SIAM, Service d'ingénierie et d'appui à la médiatisation pour l'enseignement de l'UBO. Et elle est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors le SIAM, à part le détail du sigle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites?
C'est un service d'appui à la pédagogie donc, qui est surtout destiné aux enseignants-chercheurs. Ils viennent nous voir quand ils ont un projet. Ça peut être un projet pédagogique, mais aussi un projet plus long sur lesquels on a des projets spécifiques sur lesquels on peut les accompagner sur l'année. On appelle ça des PADP. C'est vraiment porté par un ingénieur pédagogique du coup et un enseignant. Voilà, on peut les accompagner sur des projets d'hybridation, d'approche par compétences, d'intelligence artificielle aussi. Tout ce qui est autour des transitions environnementales pour un développement soutenable également. Et on a aussi une équipe audiovisuelle qui nous aide dans tout ce qui est la captation de vidéos à usage pédagogique. Et on a une plateforme qui s'appelle Moodle où les enseignants déposent finalement leur contenu de cours. Ça permet aux étudiants de les récupérer. Et on a 2 collègues qui travaillent sur le support du coup de cette plateforme.
Et donc j'imagine que ce type de service est né du développement des outils numériques. Enfin, ça s'est imposé, c'est ça, à cause du numérique?
Pas forcément imposé à cause du numérique, parce que les services existaient déjà finalement avant qu'il y ait l'avènement du numérique et qu'on parle d'hybridation des enseignements, de cours à distance, notamment au moment du Covid. Mais notre service existait déjà en fait en amont de cette crise sanitaire. Mais c'est vrai que la crise Covid a intensifié ce côté de conception numérique, de module e-learning, que ce soit pour les enseignants, mais également pour les étudiants.
Parce que ouais, alors l'ingénierie pédagogique, c'est l'art de bien enseigner, enfin d'enseigner efficacement, c'est ça, on pourrait dire ça.
Oui, efficacement, mais aussi bien concevoir ses cours pour que les étudiants s'y retrouvent, voient un fil conducteur tout au long de leur parcours universitaire et mettent des activités qui les mettent en pratique et qui les dynamisent tout au long de leur cours.
Donc vous êtes quand même une quinzaine dans ce SIAM, dans ce service, et vous êtes emparé de l'intelligence artificielle. Il y a déjà, donc je le disais, 2 ans. Qu'est-ce que vous faisiez déjà autour de ces questions? Qu'est-ce qui ressortait en fait?
Il y a eu une réflexion en fait au début sur comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Comment est-ce que les étudiants l'utilisent? Il y a eu beaucoup la question de la triche qui est revenue du côté des étudiants. C'est, je pense, une des réflexions qui nous a amené à concevoir aussi un groupe recherche-action sur l'intelligence artificielle avec des collègues enseignants-chercheurs et des personnels de l'université, service de la formation continue, service informatique, etc. Et on a vraiment une réflexion commune autour de cette diverses questions-là. On a un groupe qui réfléchit vraiment sur les questions de génération de contenu pédagogique à destination des étudiants.
Mais donc par exemple, les profs qui utiliseraient l'IA pour créer leurs cours, enfin, ça existe déjà,
ça.
J'imagine.
Oui, ça existe déjà. Et là, on teste plusieurs modalités. Il y a aussi des sociétés qui ont créé leur plateforme intégrant l'intelligence artificielle. On peut par exemple déposer un support de cours et il y a un module qui en ressort. Donc voilà, on a fait des tests de ces outils-là pour voir si ça pouvait nous convenir. On a également un groupe qui s'intéresse à tout ce qui est l'éthique et les transitions environnementales pour un développement soutenable. On réfléchit, enfin plus que réfléchir, on est même sur l'écriture d'une charte de bon usage de l'intelligence artificielle à l'université. Et on a un autre groupe qui s'intéresse à la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est question d'accessibilité, d'inclusion à l'université pour des personnes qui seraient en situation de handicap.
Mmh, oui, c'est ça. Donc vous citez, en fait les groupes que vous citez, c'est des groupes qui étaient déjà en action avant même que vous participiez à ce consortium.
Oui, c'est ça, exactement.
Et ça c'était né parce que aussi, enfin vous disiez, bon il y a le fait que les profs constataient sans doute des triches. Est-ce que les élèves aussi vous ont sollicité ou pas ?
Pas immédiatement. On commence à avoir des sollicitations parce qu'on a pris un peu l'initiative de leur faire passer une enquête, un questionnaire sur les leurs usages de l'intelligence artificielle.
Et ils ont bien répondu ?
Ils ont bien répondu. Cette année, on a eu 1900 réponses du côté étudiant, donc ce qui est plutôt bien. Et du côté enseignant, on a eu environ 200 réponses, donc ce qui nous permet d'avoir un retour assez concret en fait, sur les usages.
En effet, ouais. Et alors ?
Et alors, on s'est rendu compte que les enseignants et les étudiants avaient quand même à peu près les mêmes craintes, la même vision de l'intelligence artificielle.
Donc des craintes plutôt ?
Ouais, des craintes sur tout ce qui est les hallucinations que l'IA peut faire.
Alors hallucinations, pour donner la définition, c'est les erreurs en fait, tout simplement.
Oui,
hein,
c'est ça. Ouais, c'est ça.
Je sais pas pourquoi on appelle ça hallucination, c'est assez amusant, mais bon, ça parle pas tellement. Ouais.
Mais ouais, toutes les erreurs en fait que l'intelligence artificielle peut faire. C'est vrai que les étudiants l'utilisent quand même majoritairement.
Donc ouais, ils utilisent, c'est sûr, les étudiants de l'UBO, tous pratiquement
Ouais, peut-être pas tous, parce que je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas, mais une grande majorité en tout cas l'utilisent. Mais ils ont quand même ce côté vigilance, comme quoi il faut bien regarder ce que l'intelligence a produit. Et du côté enseignant, c'est pareil, ils l'utilisent plus dans un aspect peut-être de gain de temps sur certaines tâches.
Par exemple, ouais, ça peut être quoi
De l'administratif ou des tâches qui seraient répétitives. Mais voilà, on sait que par rapport à cette enquête, ils ont toujours un peu cette vision critique de « il faut que je vérifie ce que l'intelligence artificielle m'a produit ».
Oui, c'est ça. Et donc, les élèves, est-ce qu'il y en a qu'on reconnu avoir utilisé en situation d'examen ou
un espace où c'était ouvert, où les étudiants pouvaient partager leur expérience sur l'intelligence artificielle. Comme c'était anonyme, ils ont été plutôt francs dans leurs réponses. Oui, il y a eu quelques réponses, mais qui étaient minimes sur des étudiants qui utilisaient pour... c'était pas dit, mais je pense que c'est plus une aide dans la rédaction de dossiers plutôt que faire rédiger la totalité du dossier en fait à l'intelligence artificielle, parce qu'on sait que l'enseignant va le voir si c'est rédigé de A à Z avec une intelligence artificielle, et ça va pas développer les compétences qu'on attend de l'étudiant.
Ah oui, ouais, c'est si évident que ça en fait, que ça se voit encore, enfin, c'est encore détectable
de moins en moins, mais sur la structure, l'intelligence artificielle utilise quand même les mêmes termes pour commencer un paragraphe et structure généralement à peu près de la même manière ces paragraphes. Donc un enseignant qui aurait été sensibilisé à l'intelligence artificielle, notamment par nos formations qu'on propose au CIAM sur cette thématique à l'université, l'enseignant va être sans doute en capacité de détecter une structure qui aurait été générée par une intelligence artificielle.
Ah oui, qu'est-ce que vous proposez comme formation ?
On a 5 formations, il me semble, de mémoire. Donc on a une formation qui est de base un premier niveau sur déjà comment se connecter à une intelligence artificielle et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps avec une
intelligence artificielle. Laquelle choisir aussi.
Ouais, c'est ça, laquelle choisir. Comment est-ce qu'on rédige pour communiquer avec l'intelligence artificielle ? Parce qu'on sait que le message qu'on appelle un prompt qu'on envoie à l'intelligence artificielle...
La commande, en gros, quoi.
Ouais, la commande est extrêmement important pour avoir une réponse de qualité derrière. Donc, on les forme à ça. Et ensuite, les formations qu'on a mises en place cette année, on va un peu plus loin sur la formation aux agents conversationnels. Donc, c'est les petits agents qu'on peut paramétrer avec nos propres documents pour avoir des réponses personnalisées par rapport à notre base de données à nous. On a 2 formations sur cette thématique-là. Et on a
Ça voudrait dire que les profs pourraient envoyer ça pour discuter avec leurs élèves, par exemple, non ? Pas forcément.
Pour donner un exemple concret, on a, par exemple, on a un collègue enseignant qui a créé un agent conversationnel avec des données sur, pour le coup, c'est un cours d'anglais, pour qu'il a mis ses données de cours dedans. Et comme ça, les étudiants peuvent s'entraîner chez eux aussi à continuer pour progresser en fait en anglais.
D'accord.
Avec des données qui sont basées sur les cours de l'enseignant.
Et pour l'instant, c'est uniquement écrit ou ça passe aussi à l'oral, à l'audio ?
Comme là, c'est sur une version pour pas que les étudiants aient à payer, c'est sur une version gratuite, donc c'est uniquement à l'écrit.
Oui, ça c'est une question aussi qui va revenir. Ouais. Ouais. Et quoi d'autre comme formation?
On a des formations sur tout ce qui est le côté IA, recherche bibliographique également, avec un collègue de la bibliothèque universitaire.
En effet, ouais, ça peut être utile. Donc ça, c'est des formations que vous aviez montées avant d'adhérer au consortium, j'imagine.
Enfin, oui, c'est ça.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous a pour l'instant apporté de rejoindre le consortium? Enfin, c'était quoi l'objectif?
L'objectif, je pense, premier, c'est déjà un partage, un échange avec les autres universités. Comme vous disiez, on arrive à plus de 20 universités.
Enfin, je crois que c'était 18 la dernière fois, mais ouais, ça a peut-être augmenté.
Je crois qu'on est, la dernière fois, j'ai vu 21, donc on doit être dans ces eaux-là, je pense. C'est vraiment un échange, en fait, avec les autres universités. L'idée, c'est qu'on a plusieurs sous-groupes de travail en fonction de nos thématiques. On a des groupes spécialisés sur plus la pédagogie, d'autres qui vont être plus traités les questions RH, d'autres plus les questions des
ressources humaines. Ouais.
Ressources humaines et aussi services informatiques. Voilà. Et c'est qu'en fonction de ces thématiques-là, on s'est répartis avec les collègues dans les sous-groupes et on fait surtout remonter nos besoins, nos cas d'usage. L'idée étant, en alliance du coup avec Mistral et les EdTech, de voir s'il y a moyen de développer une intelligence artificielle qui serait propre à nos besoins dans l'enseignement supérieur.
Parce qu'il y a des facs qui ont développé déjà leurs outils d'intelligence artificielle.
Oui, oui, oui.
Par exemple.
Notamment l'université de Rennes avec le RAG à Rennes. Ça s'appelle un RAG, donc finalement c'est le système, c'est qu'ils mettent leurs documents dans une intelligence artificielle et ça va tourner en cercle fermé sur ces documents-là. L'idée c'est que
et c'est des documents, enfin c'est du savoir, la connaissance scientifique.
Ouais, c'est de la
discipline.
Alors je sais pas exactement ce qu'ils ont mis comme document à l'intérieur, mais l'idée c'est que ça soit fermé et en fait que ce soit des données qui étaient validées en amont par l'université.
Ça compte.
Et ça permet d'avoir une réponse, on va dire, plus fiable qu'un outil d'intelligence artificielle classique.
Bah c'est ça, parce que l'outil d'intelligence artificielle, le problème, c'est qu'il va chercher un peu partout sur le net.
C'est ça.
Et qu'il y a aussi, évidemment, de plus en plus de mauvais... Est-ce que... Oui, voilà. Je ne sais pas quel est son degré d'examen des sources, mais bon...
Ça dépend. En fait, ça va beaucoup aussi dépendre du prompt, donc du message qu'on lui met en entrée. Une simple phrase qui ne va pas positionner bien le contexte va forcément être beaucoup plus large et l'intelligence artificielle va aller chercher beaucoup plus largement.
Ouais, si on ne lui dit pas « va chercher uniquement les données scientifiquement validées
». Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Alors, vous saviez, quand l'UBO a rejoint le consortium, donc c'est tout récent, il y a quand même eu des valeurs qui dirigeaient ce consortium. Enfin, il y avait des principes, c'est ça, des principes fondateurs. Quels sont-ils, ces principes?
C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... faire une alliance avec les autres universités.
Ça, c'est les intérêts, mais sinon, ils ont posé des valeurs, un peu des... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une intelligence vertueuse, mais qu'est-ce que ça veut dire, une intelligence artificielle?
C'est surtout en essayer d'obtenir une intelligence artificielle qui serait souveraine, hébergée aussi sur des serveurs au moins européens, dans l'idéal français. Ouais. Voilà, juste pour une question d'éthique, de RGPD.
On sait protection des données.
Protection des données, c'est d'autant plus à l'université. On travaille avec des données de recherche pour tout ce qui est les labos de recherche. Mais également, on a des étudiants, des enseignants qui sont dans les domaines médicaux, paramédicaux, qui travaillent avec des données patients. Il y a une grosse sensibilisation aussi à faire là-dessus, surtout au niveau des premières années, par exemple en médecine ou en infirmier, sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas mettre un dossier patient sur l'intelligence artificielle.
Non, il faut anonymiser les données, en fait.
Voilà,
quoi.
Au mieux, il faut anonymiser les données. Même dans l'idéal, il vaudrait mieux pas le mettre parce qu'on sait que les intelligences artificielles aujourd'hui sont pas souveraines.
C'est ça, elles sont privées.
Ouais.
Et c'est pour ça que vous travaillez avec Mistral AI. Enfin, comment ça se passe cette collaboration dans le consortium?
L'idée, c'est qu'avec les sous-groupes de travail, on réfléchisse donc en interne au niveau des universités. Donc on a des réunions sur le mois de mars, on en a eu plusieurs. Là, ça s'est un peu espacé. On va en avoir là sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine. L'idée, on fait remonter nos besoins dans des documents, textes, on va dire. La porteuse du projet va ensuite faire remonter ces besoins-là à Mistral et au EdTech, qui vont ensuite faire redescendre une proposition.
Il y a combien d'entreprises qui sont impliquées? Enfin, c'est des entreprises uniquement françaises ou européennes ou
C'est essentiellement Mistral. Après, sur les EdTech, principalement, je ne saurais pas dire exactement les noms.
Il y en a quelques-unes, quand même. même. C'est ça. Ouais. Et donc, sinon, alors, vous parliez donc. Alors, c'est un peu paradoxal parce que vous dites qu'il faut protéger les données, mais en même temps, la connaissance, elle est universelle, il faut la partager. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est un paradoxe.
C'est une grande question. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on peut déjà retrouver sur Internet. Hein, déjà, on va pas se mentir. Mmh. L'idée, c'est qu'après, chaque enseignant qui produit un contenu à l'université va être libre ou pas de dire oui, moi ça me dérange pas de l'utiliser pour que ça soit réutilisé pour l'intelligence artificielle. On a des collègues qui sont totalement ouverts là-dessus. Après, on a des collègues qui travaillent sur des thématiques qui sont vraiment plus précises, sur lesquelles ils font des recherches. Donc là, c'est vrai qu'ils sont plus frileux à mettre leurs données dans l'intelligence artificielle, mais ce qui est aussi normal quand on a des enjeux.
Il y a une concurrence, en fait, c'est ça.
Il y a une concurrence et on sait que nos données, si on va utiliser par exemple ChatGPT d'OpenAI, c'est des données qui vont partir aux États-Unis. Donc voilà, ouais.
En ce moment, on a encore moins envie.
Donc c'est normal et c'est normal. Ouais. Et en fait, ils ont le beau raisonnement, ces enseignants-là. Il ne faut pas mettre leurs données quand ils travaillent sur des travaux de recherche qui peuvent amener à des brevets, etc. derrière.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il
ne
faut surtout pas mettre ces données sur l'intelligence artificielle. Donc ils ont le bon raisonnement.
Et même une intelligence artificielle interne à la fac ou aux universités françaises, ce sera un problème, malgré tout.
Il faut voir ce qu'on appelle aussi interne. Il faut vraiment bien se renseigner sur le type d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui tournerait sur nos serveurs en propre poserait, je pense, moins de soucis. Mais il faut toujours être vigilant. Voilà, c'est des données qu'on...
Oui, il y a des fuites, quoi.
Ouais. On n'est pas à l'abri. On sait que maintenant, il y a les hôpitaux qui ont des cyberattaques, etc. On n'est pas à l'abri à l'université, un jour, d'en avoir une non plus.
C'est ça.
Donc, voilà, il faut toujours être vigilant sur les données qu'on partage.
Oui, donc d'ailleurs, dans les enjeux de vos travaux, là, il y a la sécurité des données. Donc, c'est un groupe de travail, c'est ça, spécifique, qui travaille là-dessus la cybermalveillance.
Le consortium, du coup, avec les universités, oui, il y a un sous-groupe de travail dans lequel je ne fais pas partie parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais qui réfléchissent à ces questions-là. Et autrement, au sein de l'université, on n'a pas réellement de sous-groupe de travail. On en a un qui se pose des questions éthiques, qui a amené à la charte. Sur l'université, on va vraiment être sur une sensibilisation en fait, des équipes pédagogiques et des étudiants pour ça. On passe, par exemple, on a des séminaires de fin d'année, c'est l'occasion d'avoir toutes les équipes pédagogiques réunies. Ils nous sollicitent pour animer des séminaires sur ces questions-là. Et c'est dans ce moment-là en fait, qu'on fait passer les informations un peu clés qu'il faut avoir en tête avant d'utiliser une intelligence artificielle.
Ouais, les bons réflexes, quoi, déjà.
Ouais, c'est ça.
De base. Ouais.
C'est ça.
Il y a aussi des questions. Alors, vous, je ne sais pas quels sont vos domaines de compétences plus spécifiques, d'ailleurs.
Moi, ça va être plus en lien avec tout ce qui est autour de la pédagogie, mais aussi un peu de l'inclusion.
Alors oui, justement, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est quoi les enjeux intelligence artificielle et inclusion, égalité
Ouais, du coup, à l'université, on a un projet qui s'appelle Tous Égaux, qui vient de se lancer il y a quelques mois. L'idée, donc, eux réfléchissent à une université inclusive de manière générale. Forcément, la question de l'intelligence artificielle s'est posée. Je suis en contact avec la chef de projet pour qu'on réfléchisse sur ces questions d'IA et d'inclusion. On a pu tester des outils, notamment des outils pour les étudiants qui seraient dyslexique, où on mettrait par exemple un support de cours dans le logiciel et le logiciel adapterait finalement les interlignes, l'espacement entre les mots, mettrait en couleur les lettres sur lesquelles un étudiant aurait des difficultés et qu'il confondrait pour que ça facilite l'identification.
Dans la mise en forme du document.
C'est
quoi,
ça,
déjà.
Ouais, une remise en forme du document. C'est vrai que maintenant on peut aussi imaginer qu'un étudiant demande à l'intelligence artificielle de lui faire un résumé de cours.
Ou une version audio,
Une version audio aussi, et une version aussi vulgarisée, finalement, s'il a du mal à comprendre certains concepts. Ça peut être une première approche pour ensuite repasser sur le cours qui est plus conceptuel. Il y a toutes ces solutions-là.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné, les tests? C'est plutôt satisfaisant ou il y a encore des progrès à faire?
C'est toujours en phase de test, mais c'est vrai qu'il y a toujours des progrès à faire. Moi, pour l'avoir testé personnellement, sur certains points, c'est vrai que ça va être performant, notamment sur le résumé de texte, de cours. Ça peut être intéressant, ça peut donner une première approche, mais il va toujours y avoir cette question de vérification derrière. Et sur les outils qu'on a pu tester, c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, il faut voir en pratique avec les étudiants, c'est la phase de test qui est en train de se dérouler, et voir le résultat qui va en ressortir.
Ouais, c'est ça. Il faut avoir suffisamment d'étudiants qui souffrent d'une dyslexie, et puis qui puissent. Vous en avez peut-être pas assez encore dans votre corpus pour voir si ça marche.
Après, il faut qu'ils soient aussi volontaires pour tester, parce qu'on sait que des étudiants qui ont des difficultés, c'est souvent compliqué en fait pour eux. De se dénoncer,
ouais,
mais de se mettre
ouais,
en avant.
Tout à fait.
Ça peut être un peu une catégorisation qu'arriver à l'université, certains étudiants essayent de s'en détacher.
Ils ne le savent pas tous d'ailleurs.
Ils ne le savent pas tous. Ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tous diagnostiqués. Y a des étudiants même qui peuvent simplement avoir des difficultés d'orthographe sans avoir un diagnostic derrière. C'est des outils aussi qui peuvent servir, par exemple, quand on a écrit un texte et qu'on demande à l'intelligence artificielle de le corriger.
Bah oui, la relecture du mémoire.
Voilà, ça peut être un outil qui peut faciliter quand même certains points, mais pour avoir eu le retour d'une étudiante, elle me disait que ça lui demandait quand même du temps de revérification derrière, qui est aussi important. Donc, est-ce que c'est un réel gain de temps? La question se pose.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de miracle de toute façon. Et sinon, est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres... Alors, quand vous parlez inclusion, là, on comprend que c'est plutôt les handicaps en général, mais est-ce qu'il y a aussi des questions sur l'équilibre des informations véhiculées, par exemple, sur les différences hommes-femmes? Je ne sais pas comment exprimer ça, mais on dit que l'intelligence artificielle, elle a un biais sexiste. Est-ce que vous travaillez là-dessus ou pas spécialement?
Pas spécialement, c'est pas nos thématiques de prédilection, on va dire. Après, on sait que ça existe, on essaye de sensibiliser. On sait que une intelligence artificielle qui est basée aux États-Unis, une intelligence artificielle qui est basée en Chine, il va y avoir des biais culturels forcément,
des
biais politiques. Donc ça à prendre en compte. C'est vrai qu'au niveau culturel, en France, on n'est pas forcément sur les mêmes cultures. Donc on sensibilise toujours par rapport à ça.
Est-ce que justement, dans tous les cursus universitaires, finalement, il ne pourrait pas y avoir le module intelligence artificielle? C'est envisagé
C'est en réflexion. En fait, là, on a des équipes pédagogiques qui viennent vers nous demander un appui, justement, pour la conception de ce type de module-là. L'idée, c'est que nous, notre stratégie de base, c'était former les enseignants pour qu'ensuite les enseignants forment leurs étudiants, parce que mon service n'a pas vocation à aller former directement les étudiants. Donc, on essaye de faire ruisseler comme ça.
Oui, c'est pas une mauvaise idée.
Oui, et ça fonctionne. Maintenant, à l'échelle de l'université, c'est vrai que on a beaucoup d'étudiants. On a plus de 20 000 étudiants, donc c'est vrai que former tout le monde en masse en même temps, ça va prendre du temps. Donc l'idée du module e-learning effectivement apparu, il serait disponible du coup sur notre plateforme.
Oui, c'est ça. Moodle. Ça peut être cette forme-là.
Donc pour l'instant, il est en réflexion. On va voir comment ça s'agence, comment est-ce qu'on le réalise. Mais l'idée, c'est vrai que on va avoir une charte qui va être commune pour tous les enseignants, tous les étudiants. L'idée, c'est qu'on ait un module qui soit commun pour tous les étudiants.
D'accord. Alors sinon le SIAM, le service d'ingénierie et d'appui à la médiatisation pour l'enseignement, je redis la signification, Audrey Bérou, vous travaillez aussi sur, dans les axes de travail, j'ai vu, c'était marqué sur les problématiques de système d'information. Ça veut dire quoi ça
Ça va être vraiment en fait tout ce qui est question des utilisations des outils qu'on va pouvoir utiliser pour de la pédagogie. C'est vrai que tout ce qu'on, enfin on connaît tous le fameux diaporama qu'on peut diffuser en cours. Mais maintenant il y a d'autres outils en ligne qui se développent, qui sont un peu plus interactifs, qui sont un peu plus visuels aussi des fois pour les étudiants. Donc on va avoir cet axe sur ces outils là.
Et il y a les fameux podcasts générés par intelligence artificielle qui, pour en avoir écouté, sont assez bluffants, il faut le dire, en tout cas sur la forme, sur le ton. Et puis alors, il y a la définition du modèle économique qui serait, le nerf de la guerre, l'argent, comme toujours, mais c'est vrai que c'est pas gratuit, tout ça. Pour l'instant, les accès sont assez gratuits, on est d'accord ?
Oui.
Mais ça va pas durer déjà, peut-être. Et puis,
Je pense qu'il y aura toujours une version gratuite des intelligences artificielles. Pourquoi ? Parce que d'avoir une version gratuite, ça permet de donner envie d'aller sur la version payante. Mais après, c'est vrai qu'il va y avoir. On sait qu'on a des étudiants qui sont en capacité de se financer une intelligence artificielle payante. Donc ça va créer un clivage avec ceux qui ont
Inégalité.
Inégalité. Après, nous à l'université, on a quand même, comme on travaille avec Google, donc on a Gemini qui est accessible. On est aussi avec Microsoft, donc on a Copilot, c'est des outils.
Donc pour l'instant, c'est gratuit, enfin, pour vous. Pour les facs.
C'est pas pour toutes les facs, c'est nous, à l'université, on travaille avec ces entreprises-là. Du coup, on a des accès du fait qu'ils ont développé leur intelligence artificielle. Bon, voilà. Après, l'idée, c'est qu'avec l'alliance Mistral...
Oui, avec Mistral AI, vous allez devoir les payer quand même un peu.
Voilà, oui, on va devoir les payer. Après, voilà, le modèle économique est en train de se construire. Donc, on attend de savoir le coût que ça va représenter et comment on va pouvoir s'en emparer à l'université.
Ouais, et ça serait pas envisageable qu'il y ait un forfait pour les étudiants à payer éventuellement
L'idée, je pense que c'est plutôt que si l'outil se développe dans l'enseignement supérieur et la recherche, ce serait les universités qui vont le prendre finalement, qui vont acquérir une licence. Et avec une idée, peut-être que ça soit disponible pour les étudiants. On n'est pas forcément sur l'idée que ça soit à l'étudiant de payer en fait son intelligence artificielle justement pour résoudre ses soucis d'égalité, même si
D'accord.
ça serait toujours un peu compliqué, je pense.
Oui, ça se comprend. Bon, eh bien, très bien. Je pense que vous reviendrez pour nous parler des différentes étapes du projet, de votre travail, parce que finalement, là, ça commence. Ça fait 2 ans, mais bon, le consortium, ça fait pas longtemps que vous êtes dedans. Donc,
Oui, c'est ça, c'est le début.
Ouais. Donc, vous reviendrez pour nous parler des résultats de tous vos tests, justement.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Audrey.
Merci. Bérou.